Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment contrer l'influence toxique de la manosphère? Un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes. Les contenus misogynes en ligne nuisent autant aux hommes qu'aux femmes. Voici des actions concrètes pour limiter l'influence de la manosphère et favoriser l'égalité entre les sexes dans l'espace numérique. Dans un univers marqué par les inégalités entre les sexes, y compris en ligne, personne n'en sort véritablement gagnant. Néanmoins, dans la manosphère, des influenceurs diffusent des contenus controversés dont ils tirent profit, qui alimentent la misogynie, véhiculent des conceptions toxiques de la masculinité et banalisent la violence à l'égard des femmes et des filles. Consultez la première partie de cet explicatif. La manosphère, de quoi s'agit-il et pourquoi devons-nous nous en inquiéter, paru dans un article séparé, pour découvrir en quoi la manosphère ne se résume pas à la simple rhétorique en ligne et représente bel et bien une menace dans le monde réel. Les influenceurs et contenus de la manosphère sont associés au phénomène suivant. Effet sur la santé mentale des garçons et des hommes. Les conceptions irréalistes de la virilité véhiculées dans la manosphère peuvent engendrer de l'anxiété, conduire à l'automutilation et encourager des comportements à risque chez les hommes qui se sentent contraints d'être plus virils. Par exemple, les communautés de looksmaxing exposent les photos d'hommes à des critiques particulièrement sévères. Attitudes liées au genre et normes sociales néfastes. La manosphère donne un plus grand écho aux stéréotypes sexistes et aux normes sociales néfastes, tout en permettant à leurs auteurs de se soustraire largement à toute responsabilité grâce à l'anonymat dont ils bénéficient. Comportements sociaux et relationnels dangereux. La manosphère inculque aux jeunes hommes des techniques de manipulation visant à obtenir des rapports sexuels des femmes. Même des discours sexistes haineux en viennent à se banaliser, au point de se répandre dans les écoles et sur les lieux de travail. Recul de la sécurité pour les femmes et les filles dans les espaces numériques. Les attitudes et comportements promus par la manosphère contribuent à rendre les espaces en ligne plus hostiles. On peut notamment citer Gamergate, une campagne de harcèlement orchestrée par des hommes suprémacistes de l'alt-right qui visait spécifiquement les joueuses. Violence à l'égard des femmes et des filles. À travers le monde, de nombreux exemples témoignent d'hommes ayant commis des actes violents, des meurtres ou des suicides sous l'influence de contenus diffusés en ligne. La manosphère s'attaque de façon disproportionnée aux jeunes femmes et aux filles, aux communautés marginalisées, ainsi qu'aux femmes évoluant dans la sphère publique, comme les militantes, les journalistes et les responsables politiques. Heureusement, il existe des actions concrètes que chacun, individus, décideurs politiques et grandes entreprises technologiques, peut entreprendre pour freiner l'emprise croissante de la manosphère. Comment repérer les signes de radicalisation dérivés de la manosphère chez les jeunes hommes? Il est essentiel d'instaurer des échanges ouverts avec les jeunes sur leur usage d'Internet, tout en encourageant leur autonomie. Il demeure toutefois crucial que les proches, qu'ils soient parents ou tuteurs, aidants, amis ou membres de la famille, restent attentifs aux signes d'influence néfaste en ligne. En voici une liste non exhaustive. Retrait des interactions sociales et adoption d'une attitude secrète concernant ces activités en ligne. Usage accru de discours sexistes haineux ou d'opinions rigides sur le genre, similaires à celles véhiculées par des groupes extrémistes. Dégradation du comportement et des attitudes, manifestées notamment par une méfiance et une hostilité croissante envers les femmes ou par une fixation malsaine sur la notion de virilité. Humour déshumanisant envers autrui, en particulier à l'égard des femmes et des filles. Harcèlement sexuel, notamment par des insultes ou la sexualisation de l'apparence de filles et de femmes, y compris des enseignantes. Les jeunes adaptent leur comportement selon leur entourage. Il est donc essentiel que les parents restent ouverts au dialogue avec d'autres personnes impliquées dans la prise en charge de leur enfant pour discuter de ces éventuels changements de comportement. Vous écoutez « Comment contrer l'influence toxique de la manosphère », un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes. Comment contrer la manosphère et la misogynie en ligne? Pour lutter contre la manosphère, il est indispensable de remettre en cause les croyances et normes sociales toxiques qui perpétuent les inégalités entre les sexes. Dans nos cercles sociaux et nos communautés, ce travail prend souvent racine et se développe à travers des conversations. Par exemple, il est important de parler d'égalité et de stéréotypes de genre avec les enfants. Si vous pensez qu'une personne de votre entourage subit une influence négative liée à des contenus en ligne, choisissez un bon moment pour engager la conversation avec elle. Montrez-vous à l'écoute de ses opinions et adoptez un comportement exemplaire. Promouvoir une masculinité saine à l'ère du numérique. Valoriser l'empathie et la communication par opposition au stoïcisme ou à l'isolement. Construire des relations fondées sur la confiance, loin de toute dynamique de domination ou de quête de statut. Valoriser l'expression des émotions et montrer qu'il n'y a aucun danger à se montrer vulnérable. Adopter soi-même une attitude respectueuse et savoir exprimer ses désaccords sans nuire à autrui. Faire remarquer les stéréotypes de genre dans les médias et en discuter. Pour chaque influenceur toxique de la manosphère, il existe des entités positives, comme les partenaires et les affiliés d'ONU Femmes, qui promeuvent l'égalité des sexes, y compris He4She, avec sa boîte à outils Male Allyship, Equimundo, la Men Engage Alliance et la Movember Foundation, qui fournissent des informations précieuses sur la santé physique et mentale des hommes. Former à l'éducation aux médias pour combattre la haine numérique et les pseudosciences. La manosphère repose sur des pseudosciences et la manipulation psychologique. Apprendre aux jeunes hommes à poser des questions du type « Qui est l'auteur de ce contenu? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il manque? » Vérifier l'information auprès de plusieurs sources fiables, de préférence primaire, avant d'y adhérer, et savoir reconnaître les signes révélateurs tels que des généralisations émanant uniquement de la perspective masculine à l'égard des femmes, comme l'acronyme AWALT, A-W-A-L-T, « Toutes les femmes sont comme ça ». Des propos à forte connotation émotive, notamment des arguments du type « nous contre elles ». La manipulation des données, notamment par des simplifications excessives de questions biologiques ou psychologiques. Combattre de front la misogynie. Selon une enquête menée par la Fondation Tim Lewis à l'appui de He4She, deux tiers des hommes considèrent qu'il est important de dénoncer les propos et comportements sexistes observés en ligne, mais beaucoup estiment encore que ce n'est pas à eux d'agir. Nous pouvons et devons tous jouer un rôle dans la lutte contre la misogynie en ligne. Nous pouvons mettre la technologie et les espaces numériques au service du bien commun et mobiliser les hommes comme alliés en faveur de l'égalité des sexes. Solutions politiques, actions à mener par les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les entreprises technologiques. Pour affaiblir l'influence des extrémistes au sein de la manosphère, il faut cesser de banaliser la violence à l'égard des femmes et de déconstruire les conceptions toxiques de la masculinité. Cela passe autant par un renforcement des lois que par un changement d'attitude. Le rôle d'ONU Femmes est crucial pour faire entendre une diversité de voix dans ces échanges, ainsi que dans les débats plus larges sur l'égalité des sexes. Ces alliances puissantes nous montrent la nécessité d'actions concertées au plus haut niveau pour mettre fin à la violence en ligne. Voici les mesures que les décideurs politiques, les bailleurs de fonds et les entreprises technologiques doivent prendre. Consolider les politiques publiques de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, avec l'ajout de l'interdiction de la violence en ligne et le renforcement des moyens d'enquête et de poursuite des auteurs. Rendre l'industrie technologique responsable de la propagation de contenus toxiques qui banalisent la violence et en exiger leur détection et leur suppression proactive. Favoriser une transparence accrue des plateformes numériques, en particulier concernant l'impact des algorithmes, tout en renforçant la modération des contenus et les codes de conduite. instaurer une collaboration entre les autorités de régulation et le secteur numérique afin de promouvoir des lois qui garantissent une plus grande sécurité des espaces en ligne. Donner un rôle actif aux survivantes de harcèlement en ligne dans l'élaboration de nouvelles politiques publiques et associer des spécialistes en sécurité des femmes à l'évaluation des nouvelles technologies, y compris les produits d'IA. Combler les insuffisances en matière de données sur l'impact de la manosphère et les points d'accès utilisés pour la diffusion d'idéologies extrémistes. Investir dans la citoyenneté numérique pour doter les jeunes des outils nécessaires pour reconnaître la haine en ligne et la rejeter. Établir des partenariats avec des organisations de la société civile et des influenceurs afin de combattre les contenus extrémistes, promouvoir des normes de genre inclusives et valoriser des modèles de masculinité positive. Investir dans des programmes tels que des initiatives de santé mentale pour les hommes et les garçons, des groupes encourageant des masculinités positives, ainsi que des interventions fondées sur des données probantes pour prévenir la radicalisation. Appel à l'action. En finir avec la misogynie et promouvoir l'égalité des sexes en ligne. La mission d'ONU Femmes est d'accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes partout dans le monde. Pour y parvenir, nous ne nous contentons pas de promouvoir les droits, l'autonomisation et la sécurité de toutes les femmes et filles. Nous collaborons également avec nos partenaires pour faire tomber les normes de genre qui portent préjudice aux hommes et aux garçons. L'influence croissante de la manosphère sur la société coïncide avec une montée du conservatisme chez les jeunes hommes qui sont plus susceptibles d'avoir des points de vue stéréotypés sur le genre et de croire à tort que le féminisme discrimine les hommes. Alors que le monde célèbre le 30e anniversaire du Programme d'action de Beijing, un plan d'action révolutionnaire pour l'égalité des sexes, le moment est venu de lever les obstacles qui subsistent. Mettre fin à la violence basée sur le genre et réduire la fracture numérique entre les sexes constituent des initiatives phares du programme pour faire progresser l'égalité à l'échelle mondiale. En combattant la masculinité toxique dans les espaces virtuels, nous agissons contre le harcèlement en ligne et la violence qu'ils engendrent dans le monde réel. Désabonnons-nous de la manosphère pour faire du monde numérique un espace plus sûr et plus égalitaire pour toutes et tous. C'était « Comment contrer l'influence toxique de la manosphère », un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes.
Cohabiter et gagner l'opinion publique en se mettant au service du quartier, un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir. Depuis quelques années, les problèmes de cohabitation sociale entre citoyens logés et itinérants sont exacerbés par l'ampleur des besoins. Les uns défendent leur droit à être en sécurité chez eux, les autres à exister, ou plutôt à survivre, dans l'espace public. Devant un tel clivage, des organismes communautaires mettent sur pied des initiatives sur une base locale qui porte fruit. Changer les perceptions, un sac de poubelle à la fois. Installé au Square Cabot, l'organisme Résilience Montréal se prépare à déménager un peu plus au sud, sur l'avenue Atwater, dans l'ancien immeuble des antiquités Roundtree, dont il s'est porté acquéreur. Si les rénovations vont bon train, d'autres genres de travaux préparatoires sont également mis en œuvre. J'ai passé des centaines d'heures à discuter avec les voisins et les commerçants, explique le directeur général de l'organisme, David Chapman. Certains sont accueillants, d'autres moins, mais leurs craintes sont légitimes. Pour répondre à leurs préoccupations, un plan de cohabitation a été établi. La brigade de propreté y occupe une place de choix. Dans la vitrine de résilience, une affiche. « We are human, not trash », que l'on pourrait traduire par « Nous sommes des êtres humains, pas des déchets ». L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, les équipes ramassent justement les déchets du secteur pour se faire accepter. Ça fait plus d'un an qu'on est là, qu'on prépare le déménagement, qu'on nettoie autour du futur bâtiment et qu'on s'entretient avec les voisins. On fait tout pour que ça se passe bien, explique Nathan Neal. L'homme de 62 ans, ancien usager de l'organisme, s'est trouvé un appartement grâce à Résilience. Aujourd'hui, il tente de leur rendre l'appareil et dirige les équipes affectées au nettoyage du voisinage. Il a le regard espiègle et la main agile. Nathan adore son travail et ça paraît. On sera leur voisin, explique Nathan, avant de commencer sa route, avec deux collègues. On ne veut pas être une nuisance, au contraire. Mais c'est sûr qu'il y a encore des préjugés, et ça me motive encore plus pour que ce soit propre, explique celui qui ajoute qu'une dame a appelé pour les féliciter de leur travail après leur passage. Ça m'a surpris. On me remercie beaucoup pour mon travail, on me dit beaucoup que nous sommes appréciés, que notre travail est important. Lui qui croyait, en s'engageant dans la brigade propreté, avoir à ramasser surtout les déchets de personnes en situation d'itinérance, a vite déchanté. On ramasse les déchets des gens sans logement, mais aussi des citoyens logés. Je ne m'y attendais pas, précise Nathan. Dossard jaune fluo sur le dos, chaque élément ramassé les rapproche de la respectabilité. Ce n'est pas un choix de vivre dans la rue. C'est un choix imposé. Laisse tomber l'homme qui rappelle que ça peut arriver à tout le monde. Votre frère, votre sœur, un parent. Je demande juste un peu de compassion, conclut celui qui sait de quoi il parle. La route du trio se termine aux abords de l'église Union United, où Nathan se signe chaque fois qu'il passe devant la murale de Nelson Mandela, sur laquelle on peut lire en français et en anglais, « Quand les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. » Un message que l'ancien itinérant aimerait bien voir se matérialiser dans la volonté des dirigeants d'aider les personnes à sortir de la rue. Quand le voisin devient un allié. Lorsque l'organisme Point de rue a ouvert la halte douceur au centre-ville de Trois-Rivières en 2023, des commerçants insatisfaits ont porté plainte au conseil municipal. Aujourd'hui, les voisins se mobilisent pour sauver l'organisme menacé de fermeture. Un virage à 180 degrés, survenu grâce au travail acharné de l'organisme. On a réussi le test, souligne Philippe Malchelos, directeur général du Point de rue. On a gagné l'opinion publique. On a donné des services que personne d'autre ne peut offrir. Les gens apprécient. Il y a une communauté qui se mobilise au centre-ville pour notre projet. Pourtant, c'était loin d'être gagné. Monsieur Malchelos reconnaît avoir manqué de temps pour faire toute la démarche d'acceptabilité sociale qu'il considère aujourd'hui comme nécessaire. Qu'à cela ne tienne, lorsque le dossier est devenu politique à la suite de plaintes, il a mobilisé ses équipes et a revu sa stratégie de communication afin que les gens comprennent mieux le projet. Mais ce n'était pas à sens unique. Lui-même s'est mis à l'écoute pour comprendre les préoccupations des voisins et tenter d'y répondre. Au total, plus de 25 mesures d'atténuation ont été mises sur pied, dont la bonification de l'encadrement psychosocial et sécuritaire. Il fait tous ses achats dans les commerces du quartier et engage un voisin qui agit désormais comme ambassadeur. La clé du succès réside, selon lui, dans la disponibilité des membres de l'équipe qui ont donné leur numéro aux citoyens logés en promettant de faire leur possible pour essayer de régler les situations dérangeantes. Pour la propriétaire du magasin Le Paradis de l'usager, qui est situé en face, le fait d'avoir le numéro de téléphone direct du directeur de l'hébergement est rassurant, a pu constater Le Devoir. Les usagers sont satisfaits, même s'ils aimeraient que la halte douceur puisse offrir des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année et non seulement l'hiver. Mais le financement n'est pas au rendez-vous. À partir du mois d'avril, la halte n'ouvre que 2 jours par semaine. Sans toit, depuis le 1er janvier 2025, un père de famille qui a demandé l'anonymat afin de ne pas nuire à ses chances de réinsertion indique à quel point avoir accès à des services en tout temps lui a été utile. Cela lui permettait notamment de continuer à s'occuper de ses enfants. « J'allais les endormir le soir. Quand je revenais, j'avais une place pour coucher au chaud. » Ce n'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on veut être dans la rue. L'organisme a réussi à gagner le respect de ses voisins, mais il n'est pas au bout de ses peines, car la bâtisse a été mise en vente et le propriétaire a reçu une offre d'achat sérieuse. Mis au pied du mur, Philippe Malchelos espère trouver 1,5 million dans les 3 prochains mois pour que Point de rue puisse se porter acquéreur de l'immeuble, sans quoi il va devoir fermer ses portes. Il tente donc de convaincre le CIUS d'embarquer dans le projet. M. Malchelos garde néanmoins espoir en voyant le soutien de la communauté. On est passé de gens dont on ne voulait pas au centre-ville à « on veut que vous soyez là ». Alors, pour nous, c'est un sacré beau succès de cohabitation sociale. C'était « Cohabiter et gagner l'opinion publique en se mettant au service du quartier », un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir.
Les sons qu'on n'entend plus. Un texte de Marissa Grosgué, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Le cliquetis des touches d'une machine à écrire. Le ding d'une vieille caisse enregistreuse. Le tic-tac des aiguilles d'une horloge murale. Les décennies s'égrènent, emportant avec elles des sons qui faisaient partie de notre quotidien. Retour dans le temps grâce à 8 objets dont les sons appartiennent au passé. Le modem se connectant à l'Internet. La démocratisation de l'accès à l'Internet dans les années 1990 et 2000 a introduit dans de nombreuses maisonnées ce son strident qui résonnait au moment de se connecter. La connexion Internet passait alors par les lignes téléphoniques. Les données numériques devaient être converties en signaux analogiques. Ces fameux sons pourraient être transmises en passant par la ligne téléphonique de la maison qui devenait alors occupée aux grandes dames de la maisonnée, jusqu'à celle du fournisseur d'accès Internet, et ensuite être convertie de nouveau en données numériques, permettant ainsi au modem de connecter l'ordinateur à l'Internet. Un chemin de croix comparé à aujourd'hui. La machine à écrire. Avec le recul, ce son résonne presque en noir et blanc dans notre tête. Les touches qui actionnent le marteau contre le ruban à encre qui imprime les caractères sur le papier. Clac, clac, clac. La cloche qui avertit que l'extrémité de la feuille est atteinte. Ding! Le levier qui ramène alors le chariot de l'autre côté du papier pour commencer une nouvelle ligne. Le premier brevet pour une machine à écrire a été accordé en 1714, mais c'est la révolution industrielle au 19e siècle qui a mené à sa commercialisation jusqu'en 2011, lorsque la dernière usine de machines à écrire en Inde a fermé ses portes. L'imprimante matricielle. Toute imprimante qui produit des caractères à partir de points peut être appelée imprimante matricielle. Mais on pense communément à l'imprimante à aiguille lorsqu'on utilise ce terme. C'est donc le son de ces pointes que l'on entend durant l'impression. Cette imprimante à impact propulse ces minuscules aiguilles sur le ruban imprégné d'encre contre le papier. Petit souvenir supplémentaire pour accompagner ce son appartenant au passé, on utilisait avec ce type d'imprimante du papier, en accordéon ou en rouleau, à bande latérale perforée qu'on retirait doucement après l'impression. Le projecteur de diapositive. Souvenez-vous, à l'école, lorsqu'au lieu des tableaux interactifs de notre époque, les professeurs faisaient leurs leçons à l'aide de diapositives. Ou, à la maison, quand on voulait revivre notre voyage dans le Maine autrement qu'en ouvrant un album photo. On éteignait les lumières pour permettre la projection des images chargées sur leur carrousel. Il suffisait d'enclencher le mécanisme, le fameux son de nos souvenirs, pour enchaîner les diapos, comme on les appelait, projetés en grand sur un mur ou un tableau blanc. La cassette VHS qu'on rembobine. Mise au point à la fin des années 1970 et largement utilisée jusqu'à sa disparition progressive dans les années 2000, remplacée par le DVD créé en 1995, la cassette VHS, qui a éclipsé sa concurrente, la cassette Betamax, est un enregistrement vidéo et sonore sur bande magnétique. La bande est enroulée sur une bobine, enchaînée par un moteur, permettant à une tête de lecture de détecter les signaux magnétiques, de les convertir en signaux vidéo et audio et de les envoyer vers l'appareil de lecture, le plus souvent un téléviseur. Afin de revenir en arrière sur la bande, il fallait l'enrouler sur sa bobine. Le son caractéristique du rembobinage. Une vieille musique aux oreilles de tous ceux qui ont vécu l'époque des clubs vidéo, alors que la politique de l'entreprise nous obligeait à rembobiner le film loué au risque de payer une amende. La neige télévisuelle. Combien de fois ce bruit nous a-t-il irrités dans notre jeunesse ou notre jeune vie d'adulte, alors que nous étions prêts à nous installer devant notre programme. Le bruit statique, ce qu'on appelle communément la neige, ces motifs de pixels noirs et blancs, dans les écrans de télévision analogique, était le résultat d'une absence de signal de transmission par les appareils d'affichage. À l'oreille, le son que l'on pourrait comparer à un souffle est un bruit blanc, soit un son qui contient toutes les fréquences. Pour les plus jeunes, pensez à l'effet brouillé au moment où le logo de la chaîne HBO apparaît avant votre émission préférée. Aujourd'hui, enterrée, la télé analogique, moins de tempêtes de neige potentielles. Autrement, on vous conseille de joindre votre fournisseur de services de télécommunication. La caisse enregistreuse. C'est probablement surtout le son du tiroir-caisse qui a marqué les esprits. Avant les caisses en libre-service, que l'on retrouve désormais dans bien des commerces, des caisses enregistreuses manuelles, munies de touches plutôt que d'écrans tactiles, étaient utilisées, opérées par des employés. Une fois l'addition finale enregistrée, le tiroir s'ouvrait pour permettre d'encaisser le paiement avec un son « ding » bien particulier. Pour l'anecdote, il semblerait que c'est à l'époque des cowboys, afin d'éviter les escroqueries et les vols, que fut créée la première caisse enregistreuse mécanique pour comptabiliser les transactions de la journée dans le saloon d'un certain James Ritty, inventeur du concept qu'il appelait à l'époque « caisse incorruptible ». L'horloge mécanique. L'horloge numérique, et celle de nos téléphones, a pris les devants. Mais sa prédécesseuse, l'horloge mécanique, laisse dans nos esprits un son distinct qui témoigne du passage du temps ou de nos visites chez Mère Grand. La progression des secondes se fait entendre en raison de l'engrenage des rouages de l'horloge qui font tourner les aiguilles. C'est l'interaction entre les pièces du mécanisme interne, différentes selon le modèle, qui cause le bruit que l'on entend. C'était « Les sons qu'on n'entend plus », un texte de Marissa Grosguet, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Les États-Unis de Trump en voie de lancer l'exploitation minière des fonds marins? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. L'Assemblée de l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, s'est terminée mercredi sans entente sur un appel pressant lancé par plusieurs pays, des scientifiques et des groupes écologistes en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Les États-Unis ont même annoncé de leur côté un accord avec les îles Cook qui pourrait accélérer le démarrage de l'industrie avec en tête de liste une entreprise canadienne. Malgré une décennie de négociations sur un code minier censé encadrer l'exploitation des ressources minières qui se retrouvent dans certains des derniers écosystèmes qui n'ont pas encore subi les impacts de l'activité humaine, l'AIFM n'est pas parvenue à conclure une entente dans un contexte de profonde division politique. Parmi les 168 pays membres de cette organisation de l'ONU, 38 plaident pour le maintien d'un moratoire sur l'exploitation au cours des prochaines années. Le Canada fait d'ailleurs partie de ces États, appuyé par des scientifiques et les groupes écologistes qui estime que les risques environnementaux sont trop méconnus pour ouvrir la porte à l'extraction minière dans les océans. D'autres font pression pour aboutir à l'adoption de règles en eau internationales, une formalité reportée au moins à 2026, censée permettre aux entreprises qui détiennent déjà des droits d'exploration de passer à la phase d'exploitation. Il faut dire que l'AIFM a accordé pas moins d'une trentaine de contrats d'exploration valides pour 15 ans à différentes entreprises. On retrouve de ces permis dans les eaux internationales de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Une vaste région du Pacifique, située à l'ouest du Mexique, suscite toutefois particulièrement la convoitise. La zone de Clarion-Clipperton. Des permis pour plus de 1,2 million de kilomètres carrés y sont actifs. Ils sont détenus par 16 promoteurs différents. Ce sont ces promoteurs qui font pression pour imposer des délais artificiels à l'AIFM, et ce malgré l'incertitude scientifique, a d'ailleurs déploré Sir Angel Whips, président des Palaos, un archipel situé dans le Pacifique. Un point de vue relayé par la Deep Sea Conservation Coalition, qui a plaidé de nouveau mercredi pour le maintien du moratoire sur l'exploitation afin de prévenir des dommages environnementaux sévères. Sommes-nous prêts à mentir à nos enfants? À affirmer, par exemple, que l'exploitation des grands fonds contribuerait à la transition verte? À nier le fait que les conséquences socio-économiques sur nos propres populations littorales seraient désastreuses? Avait aussi lancé l'ambassadeur français pour les océans, Olivier Poivre d'Arvor, à l'ouverture des discussions de l'AIFM à la fin juillet 2025, appelant à ne pas commettre l'irréparable. Les experts de l'unité études des écosystèmes profonds de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, ont déjà fait une mise en garde contre les répercussions potentielles de cette industrie. Destruction d'habitats, panache de particules, bruit, vibrations, remise en circulation de sédiments et de composés toxiques qui pourraient voyager sur de très grandes distances, etc. Sans oublier les risques de bouleverser plus généralement la santé globale des océans, qui absorbent une part importante des émissions de gaz à effet de serre imputables à notre dépendance aux énergies fossiles, en plus de produire plus de la moitié de l'oxygène essentiel à la vie sur Terre. Washington veut aller vite. Les États-Unis de Donald Trump, qui ne sont pas membres de l'AIFM, ne l'entendent toutefois pas ainsi. Après avoir décidé unilatéralement d'accélérer l'octroi de permis d'exploitation, y compris dans les eaux internationales, Washington a annoncé mercredi la signature d'un accord avec les îles Cook, dont les fonds marins suscitent de plus en plus la convoitise. Les minéraux du plancher sous-marin sont cruciaux pour développer et alimenter la technologie d'aujourd'hui et de demain, a justifié le Département d'État américain. Les îles Cook revendiquent l'un des plus importants gisements de nodules polymétalliques, riches en nickel, cuivre, cobalt et manganèse, au monde. Et les partisans de l'exploitation font valoir l'utilité de ces ressources minières pour la transition hors des énergies fossiles. La volonté américaine d'aller de l'avant rapidement avec l'extraction minière à plusieurs centaines, voire à plusieurs milliers de mètres de profondeur, a incité l'entreprise canadienne The Metals Company, TMC, à déposer la première demande d'exploitation minière dans les eaux internationales. Cette demande, adressée aux autorités américaines par sa filiale TMC USA, concerne des parcelles d'un total de plus de 25 000 km carrés. TMC a justifié ce court-circuitage de l'AIFM par la lenteur de l'organisation à adopter le code minier dans les fonds marins, qui sont considérés par l'ONU comme patrimoine mondial de l'humanité. L'AIFM a toutefois récemment adressé une mise en garde juridique qui visait directement TMC, en faisant valoir que tout projet industriel d'exploitation hors du cadre de l'autorité risquerait de contrevenir au droit international. Cette décision fait voler en éclats la crédibilité de The Metals Company et sert d'avertissement sérieux pour d'autres qui pourraient envisager ce chemin irréfléchi, a fait valoir Louisa Casson de Greenpeace. C'était Les États-Unis de Trump en voie de lancer l'exploitation minière des fonds marins, un texte d'Alexandre Shields, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir.
Quoi faire? Écran. Quatre suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot, paru le 24 juillet 2025 dans le magazine Fugue. 1. Le jeu du calmar, Squid Game, saison 3. Le pire cache parfois le meilleur de l'humanité. La saison 2 avait laissé le joueur 456, Lee Jung-jae, devant ses projets de révolte réduits à néant, suite à de multiples trahisons. Désillusionné, il se laisse tout d'abord dépérir jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne rebattre les cartes du jeu diabolique. La conclusion de ce triptyque anxiogène se décline en deux actes parallèles. Sur l'île, après avoir assisté au massacre de leurs congénères, les survivants du jeu sont confrontés à de dernières et terribles épreuves. Sur la mer, l'inspecteur de police Wang Jun-ho, Wei Ha-jun, et ses hommes tentent de localiser l'île afin de mettre un terme aux activités. Dans l'un comme dans l'autre cas, chaque équipe cache une couleuvre en son sein qui fomente leur perte. Difficile de ne pas s'identifier à la joueuse 149, une mère âgée qui tente d'effacer les dettes de son fils et découvre que celui-ci s'est également joint à cette danse macabre. De même, pour la numéro 222, qui tente d'assurer l'avenir de son enfant à naître et réalise trop tard dans quel bourbier sanguinaire elle s'est enfoncée. La saison 2 avait également intégré un premier personnage LGBTQ à la série en la personne de Cho Yeon-ju, Park Soon-hoon, une femme trans ex-militaire. Au cœur d'une Corée du Sud intolérante, celle-ci cherche à financer sa chirurgie de réassignation et son futur incertain, tout en affrontant le mépris de plusieurs des concurrents. Des alliances inattendues se tisseront au cœur de ce groupe face à des joueurs impitoyables dont certains se révéleront être aux frontières de la sociopathie. Laissez de côté les certitudes rassurantes auxquelles nous ont habitués les séries américaines. Ici, chacun peut mourir au détour d'un corridor. La saison 3 s'ouvre d'ailleurs sur l'image très forte d'un mobile pour bébé dont chacune des pièces est composée du cadavre d'un mutin. Le message est clair. Ici, la mort n'est qu'un simple jeu. Contrairement à la saison 2 qui comportait quelques longueurs, celle-ci peut se targuer de ne pas délaisser un rythme haletant et un niveau de violence inégalé. Une partie de cache-cache constitue d'ailleurs un point d'ancrage sanguinolent qui n'est cependant rien comparé à la rationalisation des bains de sang dont certains joueurs parsèment leur discours afin d'écarter tout dilemme moral. En mi-saison, un événement inattendu viendra bouleverser les enjeux de la joute et réaligner les priorités de plusieurs joueurs, plus particulièrement 456. La série fait également preuve d'une rare habileté à nous faire endosser la position de l'un des riches observateurs qui contemple nonchalamment les souffrances de la reine. Bien qu'un tantinet prévisible, la conclusion n'en demeure pas moins très satisfaisante et rappelle que le meilleur de l'humanité sommeille parfois en nous. Info, les 6 épisodes de la saison 3 du jeu du calmar, Squid Game, sont disponibles en coréen, en anglais et dans un excellent doublage français sur Netflix. 2. Inspirer, expirer, saison 2, bouffe allègrement au râtelier du psychopop. Dans la première saison, Sophie, Sonia Cordeau et Vicky, Virginie Fortin, affrontaient le tueur à la boule de billard. Rescapées de cette retraite de yoga meurtrière, elles sont à nouveau confrontées à une série de problèmes anxiogènes et loufoques. Loin d'avoir atteint l'état de relaxation promis, le week-end de yoga s'est cependant avéré des plus cathartiques au niveau de leurs relations de couple respectives. Sophie a rompu avec son chum et Vicky a réalisé ce qu'elle détestait fondamentalement chez le sien, son absence de vagin. Les deux femmes sont cependant épuisées par cette aventure. Sophie est exaspérée par les parents, cons comme la lune, qu'elle affronte à la direction de la protection de la jeunesse, ce qui donne d'ailleurs droit à une scène explosive particulièrement jouissive. De son côté, Vicky se morfond sur son canapé tout en baisant à droite et à gauche. Comme on le lui rappelle, elle n'est plus qu'une guenillou qui fait des cunis. Le passé les rattrape cependant bien vite, puisque leurs amis proches ainsi que les survivants du groupe de yoga reçoivent des lettres de menaces cryptiques accompagnées du cadavre d'un animal ou d'un sac de merde. Qui les menace dans l'ombre et surtout pour quel motif? Mystère. À son grand désarroi, Sophie se voit également contrainte de joindre un groupe de développement personnel après avoir ridiculisé un père au regard du nom dont il a affublé son fils, Jean d'Érection. Érection. La série se fait un malin plaisir à joyeusement pasticher les débordements ésotériques de l'univers de la croissance personnelle. Laura, Alice Pasquale, professe les pouvoirs laxatifs de la pierre de jade. Geneviève, Catherine Levac, encense les vertus de la secte des étincelles qui fera d'elle une ambassadrice de la lumière. Et Damien, Steve Laplante, participe à un atelier de soutien aux policiers. Il y a des matins où je me dis que je ne serais pas capable de remettre ma ceinture de police. Il y a tellement d'accessoires. La bande-annonce semble également promettre de ridiculiser les groupes masculinistes, ce qui promet de joyeux débordements. Le rythme est soutenu et les répliques cultissimes se bousculent au bataillon. Le point d'ancrage demeure cependant le personnage de Sophie, crispée en permanence, qui assène ses 4 vérités à tous ceux et celles qui ont le malheur de croiser son chemin. On ne peut que souligner l'excellence du scénario incisif de Sonia Cordeau, qui offre un chapelet de scènes jouissives, entrecoupé de quelques moments dramatiques surprenamment efficaces. Info. Les 10 épisodes de la saison 2 de Inspirer, Expirer sont disponibles sur Crave. Vous écoutez Quoi faire? Écran. 4 suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot, paru le 24 juillet 2025 dans le magazine Fugue. 3. The Gilded Age. L'âge doré. Saison 3. Amour contrarié et manigance sucrée. Après le scandale occasionné par l'ouverture du Metropolitan Opera, ainsi que les débâcles financières de vieilles fortunes, la saison 3 de The Gilded Age, l'âge doré, s'ouvre sur une année 1884 qui s'annonce riche en promesses comme en déconvenues. Le chaos règne chez les Brooke alors qu'Agnès, Christine Baranski, refuse d'accepter une réalité qui lui semble inconcevable. Elle ne contrôle plus les cordons de la bourse depuis qu'Oscar, Blake Ritson, son fils secrètement gay, l'a conduite à la ruine. En plus de vivre au crochet de sa sœur Ada, Cynthia Nixon, elle doit composer avec une nouvelle passion de cette dernière, la Ligue de Tempérance. des chamailleries toujours délicieuses à observer. Du côté des Russell, Bertha, Carrie Coon, cherche à assurer l'avenir de sa fille en manigançant pour qu'elle épouse le duc de Buckingham, réduisant celle-ci à un simple pion sur l'échiquier de ses propres ambitions. Son époux, dans une intrigue qui n'est pas sans rappeler le « il était une fois dans l'ouest » de Sergio Leone, souhaite mettre en place un chemin de fer qui traversera le territoire états-unien. Les risques financiers sont cependant titanesques. Aurora Fane, Kelly O'Hara, est consternée d'apprendre que Charles, son époux, souhaite divorcer. L'enjeu n'est pas tant la fin de leur union que l'opprobre social qui y est associé. Cette nouvelle saison de la série se positionne ainsi autour du corset moral très serré imposé à chacun, plus particulièrement aux femmes. Rappelons qu'à l'époque, le scandale du Salon de Paris tenait en l'indignité d'une peinture présentant une bretelle glissant négligemment sur l'épaule d'une jeune fille. Ainsi, alors que Charles peut promener en toute impunité sa maîtresse en public, Aurora subit le joug de regards accusateurs. De même pour les domestiques qui voient d'un très mauvais œil que l'un d'eux puisse aspirer à mieux, ou Peggy Scott, Denae Benton, une écrivaine afro-descendante, confrontée à un médecin qui ne soigne pas des gens comme elle. Jusqu'à maintenant, Oscar professait que le seul salut à sa condition de sodomite tenait en un mariage avec une femme du monde. Maintenant ruiné, il est réduit à l'état de paria en qui personne n'accorde plus sa confiance. Personne à l'exception de John Adams, Claiborne Elder, qui lui a déjà professé son amour. Il est encore trop tôt pour déterminer quelle orientation la série empruntera, mais on peut espérer que, dans les limites d'une époque bigote, Oscar saura enfin affronter ses craintes et le regard des autres. Qualifié de Downton Abbey américain, les deux séries ont le même créateur, Julian Fellowes, la série navigue avec adresse entre le drame et l'humour en maintenant un ton sémillant où les enjeux se révèlent bien souvent à travers des gestes qui nous semblent aujourd'hui anodins, mais se révèlent impensables aux protagonistes de l'époque. Le tout se révèle particulièrement jouissif à observer alors que chacun tente de préserver son vernis social à travers diverses magouilles et que ceux qui s'en balancent suscitent la plus grande réprobation, voire même le scandale. Info. Les 8 épisodes de la saison 3 de The Gilded Age, l'âge doré, sont disponibles en anglais et dans un excellent doublage français sur Crave et Super Écran. 4. Sandman, saison 2, lève le voile inquiétant du monde des rêves. Après une première saison qui a rencontré un succès critique et populaire colossal, les attentes étaient élevées au regard du second opus de la série Sandman. Soyez rassurés puisque fastes visuels et scénarios finement ciselés sont de retour. La nouvelle saison est scindée en 2 blocs de 6 épisodes. Dans les 3 premiers, une remarque en apparence anodine conduit Rêve, excellent Tom Sturridge, à demander audience à Lucifer afin qu'elle libère une damnée, la reine du premier peuple. Alors qu'il s'attend à une rebuffade d'ordre nucléaire, il se retrouve plutôt devant une cité désertée. En effet, Lucifer se dit las de gérer le royaume des enfers et lui en remet donc la clé ainsi qu'une mission en apparence innocente, y trouver un nouveau monarque. Un cadeau empoisonné, puisque Rêve est rapidement confronté aux émissaires de multiples factions antagonistes, dont les fées, les démons, l'ordre, le chaos, Odin accompagné de Thor et de Loki, etc. Ils tiennent tous, ou presque, le même discours. Si la clé ne leur est pas remise, ce sera la guerre. Un dilemme en apparence insoluble. Les 3 épisodes suivants entraînent Rêve et Délire dans une quête pour retrouver Destruction, leur frère exilé. Ce périple confrontera notre marchand de sable avec un élément de son passé qu'il cherche à oublier, son fils Orphée. La série propose une relecture inventive du mythe du barde grec où son courage se mesure à l'onde du tribut qu'il verse aux dieux afin de racheter l'âme de son épouse, une mélopée à fleur de peau. Malgré une conclusion prévisible, quoique inéluctable, sa survenance n'en broie pas moins le cœur. La bande dessinée de Neil Gaiman est admirablement traduite à l'écran, valsant entre des enjeux plus grands que nature et un humour délicieusement pince sans rire. On ne peut également que souligner l'extrême qualité des effets spéciaux, à l'exception d'une scène où l'incrustation d'une tête est très apparente. De même, pour la finesse des dialogues qui sont admirablement traduits en français dans un doublage d'une qualité exceptionnelle. À l'instar de la première saison, les 6 premiers épisodes sont saupoudrés de représentations LGBTQ, qu'il s'agisse de Cluracan, un féteau masculin de fée dont la tête de lit martèle les murs alors qu'il s'extasie des prouesses de son amant, Désir qui sème des phéromones à tout vent, Thor qui professe des métaphores phalliques en caressant le manche de son marteau, ou Wanda, une femme trans qui conduit l'équipage de rêve. Nul doute qu'il en sera de même dans les 6 derniers épisodes. La bande-annonce semble par ailleurs promettre le retour intrigant d'un personnage cauchemardesque, le Corinthien. Naviguant entre réflexions philosophiques, horreur et magie, ce premier bloc nous fait découvrir plusieurs éléments du passé de rêve et des contradictions qui l'habitent. C'est notamment le cas au cœur d'un épisode époustouflant où l'art de la diplomatie se joue à travers une première représentation du « Songe d'une nuit d'été » de William Shakespeare. Avec Sandman, Netflix offre ce qui se fait de mieux en termes de série où le fantastique et le réel s'entrelacent avec intelligence. Cette seconde saison en constituera malheureusement le dernier chapitre, puisque Netflix a annulé toute possibilité de suite après que plusieurs accusations d'agression sexuelle contre Neil Gaiman eurent fait surface. Les amateurs pourront cependant se consoler en visionnant l'excellente série Dead Boy Detectives, également disponible sur Netflix. Info: les 12 épisodes de la saison 2 de Sandman sont disponibles sur Netflix, en anglais et dans un excellent doublage français. C'était « Quoi faire? Écran. 4 suggestions de production télévisuelle de Benoît Mignot » paru le 24 juillet 2025 dans le magazine Fugue.